Donc on va commencer 22 B2, la colonne de droite. Donc je rappelle. Oui. Donc 22 B2, la colonne de droite. On a expliqué la semaine dernière qu'on est arrivé Baruch Hashem à une conclusion dans la marloquette entre Abaye et Rava. Une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que Yehush rétroactif ça marche ou pas? Je ne vais pas rentrer dans la marloquette puisque de toute façon, la marloquette on l'a déjà conclue, on l'a déjà tranchée. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que la Gemara maintenant va poser une question. C'est-à-dire, par rapport à la conclusion qu'on a eue la semaine dernière, la Gemara va poser une question, elle va répondre, et après on va aussi passer à un autre sujet. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'attarder sur ce sujet. Je rappelle la marloquette. La marloquette était, est-ce que Yehush rétroactif, ça existe ou pas? C'est-à-dire quoi? Je trouve un objet dans la rue, mais je ne suis pas sûr que son propriétaire l'a déjà abandonné. Peut-être qu'il s'est déjà rendu compte, son propriétaire, peut-être que son propriétaire ne s'est pas encore rendu compte. Il ne l'a pas encore abandonné. Mais je suis persuadé que dès qu'il s'en rendra compte, il va l'abandonner. D'accord ? En tout cas, c'est le cas du Yehush rétroactif. Abaye dit, ça ne marche pas. Tant que tu n'es pas sûr, au moins statistiquement, que la personne l'a abandonné, tu ne peux pas le prendre. Rava dit, Yehush rétroactif, ça marche. On a amené des preuves dans tous les sens, on a amené plus d'une dizaine de preuves, et en fin de compte, on arrive à la conclusion que la halakha est comme Rava, que Yehush rétroactif, ça ne marche pas.
Pour Abaye,
que
c'était un piège. Hein,
Yehush rétroactif, ça ne marche pas. Très bien. Donc, à la suite de cette conclusion de la Gemara, on a maintenant tout de suite la Gemara qui va poser une question. Amarle Ravacha.
Et si c'est un objet qui n'a pas beaucoup de...
Les questions, après si vous voulez. D'accord. Amarle Ravacha. Amarle Ravacha Baré. Les Ravad Baré des Ravad des Ravachi. Donc vous avez Amarle Ravacha. Donc 22 B2. 22 B2, colonne de droite.
Voilà, Ravacha au milieu.
Amar, les Ravacha, Baré des Rava, les Ravachi, Ravacha, le fils de Rava, à Ravachi, il lui a posé une question. Il l'a dit comme ça. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas les noms de famille, donc hein, on appelait un Ravacha le fils de Rava, et tout le monde savait de qui on parlait. Nous, on ne sait pas aujourd'hui c'est qui, mais bon. Ravacha le fils de Rava, il a dit à Ravachi, il a posé une question. Il a dit, Véhi Maha Deitota Brava. Puisque Rava a été mise en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conclusion qu'on a eue, c'est que Yehush rétroactif, ça ne marche pas, on est bien d'accord. Puisque Rava a été cassé, Itotav, ça veut dire qu'il a été mis en objection. Alors d'après ça, j'ai une question. Anetmar et Desika, ces dates, écoutez bien, que le vent fait tomber des arbres. Il faut savoir que les dates, à un certain moment, les dates peuvent être très fragiles sur l'arbre. Ça veut dire qu'il suffit d'un coup de vent, un bon coup de vent, et pac, les dates elles tombent. Normalement, une date tient bien sur l'arbre. C'est pour ça que hein, vous voyez, quand nous on prend les branches d'arbres, les branches de.
Il faut bien les détacher.
Mais à une certaine période, quand la date est bien mûre, etc., il suffit d'un bon coup de vent, et la date elle tombe. Très bien. La date est passée, oui. Alors, le problème qu'on a, c'est que comment ça se fait qu'on a le droit de les manger? Alors ça veut dire comme ça, là c'est intéressant comme question dans la Gemara, parce que la Gemara pose une question par rapport à un fait, c'est-à-dire c'est un fait accompli. On sait que les dattes qui mangent des arbres, qui tombent des arbres, on peut les manger. On sait. Et la question qu'on se demande, c'est pourquoi on peut les manger? Jusqu'à présent, toujours on croyait que pourquoi on peut les manger? Parce que on se disait, bon, même si le propriétaire du dattier ne s'est pas encore rendu compte, mais quand il va se rendre compte, il aura abandonné de toutes les façons. D'accord? Mais maintenant qu'on a dit que Yehush rétroactif, ça ne marche pas. Alors on a la question qui se pose. Quand les dattes sont tombées de l'arbre, est-ce que le propriétaire des dattes, le propriétaire du dattier est déjà au courant que les dates sont tombées? Peut-être oui, peut-être non.
Oui, d'accord, mais ça change.
Et je vais vous dire même certainement non. Oui. Parce que s'il serait rendu compte, il les aurait pris. Donc, ça s'appelle un Yehush chez l'omidat. Ça s'appelle un Yehush rétroactif. On a dit que Yehush rétroactif, ça ne marche pas. Alors pourquoi ces dates-là, on a le droit de les manger?
C'est pas...
Pardon? Ah, très bien. Alors on a une... Ça, c'est la réponse de Ravachi. Ravachi qui répond à Ravacha. Rachi répond à Ravacha, il lui dit, tu poses une bonne question. Seulement ici, il y a un autre paramètre que tu n'as pas pris en compte. C'est quoi? Amarle, lui a répondu Ravachi, Kevan de Ika, Shkatim Urmasim de Kaachleleu. Puisque une fois que ces dates-là tombent de l'arbre, on sait très bien hein, qu'il y a des insectes et des reptiles qui vont les manger. D'accord? Des reptiles.
Ce qui rentre par terre.
Ouais. Ce qui rentre par terre.
Des petits vers,
tout ce qui traîne par terre.
Reptiles.
Nous aujourd'hui ça nous dégoûte, mais à l'époque ils en voyaient partout, hein. C'était du standard. Hein,
oui, on a envie de, Nous, on a que les rats, les cafards, c'est tout, les souris.
Donc, Kevin, des cachkati, ou massim, des kahele, ou, d'ailleurs, vous savez, dans les jardins, on trouve beaucoup de ces.
Ouais.
Ah, voilà, parce que donc ça, c'est un jardin. Kevin, des kachkati, ou massim, des kahele, ou, puisqu'il y a, de toutes les façons, comme ce qu'a dit Aviel, il y a des. Le propriétaire sait que, quoi qu'il en soit, il y a des même s'ils vont tomber, de toutes les façons, il ne pourra jamais les reprendre. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, ils seront mangés par les reptiles. Donc, Meikara Yahushé Meyash Minayu. Dès le départ, il fait Yahushé. Donc là, on revient à une question que M. Bishmut avait posée il y a 3 semaines. M. Bishmut a posé une question il y a 3 semaines. Dieu lui accorde de refouer chez les mains. À moins que c'est déjà fait.
Ça tourne encore. Ça,
il a posé une question, il a dit, si maintenant, quelqu'un a un magasin, et il sait que dans son magasin, il a des pertes. Il sait, avant même de commencer son affaire, il sait qu'il y aura un certain pourcentage de pertes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que dès le départ, il a fait Yéhouch ? Je ne vais pas parler de vol, je parle de pertes. Par exemple, il sait que, je sais pas moi, il sait qu'il a des camions, et il sait que dans les livraisons et tout ça, il sait qu'il y a des objets qui tombent par terre. Et moi, je trouve un objet qui est tombé par terre. Alors, il a posé la question, il a dit, est-ce qu'on va dire que le propriétaire, même s'il n'a pas effectivement fait Yéhouch, il n'a pas abandonné, il ne sait pas que tel objet, il ne sait pas que telle cafetière est tombée de Eden, du magasin de Eden, voilà, j'ai fait une pub là, hein. D'accord ? Il ne sait pas. Mais dans sa tête, avant de commencer son magasin, il savait que ça pouvait arriver.
Alors,
est-ce que ça s'appelle Yéhouch ou pas ? Réponse de Ravashi, on a eu la réponse de Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi ? Ravashi nous a appris quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Il a dit, puisque depuis le début, le propriétaire du dattier sait que les dattes qui vont tomber vont être prises par les reptiles, donc dès le départ, il a déjà fait Yéhouch. C'est-à-dire que dès le départ, quand il voit son dattier, il dit, bon, là j'ai un pourcentage 10% poubelle. Maintenant, il ne sait pas c'est quelle date qui va tomber. C'est pas grave. Puisqu'il sait qu'il y a 10% qui vont être perdus, donc moi, quand je trouve des dates en dessous, je peux les prendre. Vous prenez ? Donc, on a la réponse à votre question.
Même un général qui envoie des soldats à la guerre, il sait qu'il va avoir une perte au départ, mais il faut qu'elle soit supportable. Alors, il fait un Yéhouch sur 5%, 2%.
T'as pu choisir un autre exemple.
Hein. Bah oui, c'est le cas. Maman, c'est le cas. On est prêt à certaines...
Tu peux pas faire...
Sachez que la dernière guerre,
on fait pas Yéhouch,
il y avait des montants qui avaient été préparés, et le miracle, c'est qu'on n'est pas du tout allé à ces...
Ouais. Bien sûr, on l'avait dit.
C'est pas dans le système de Yéhouch, je ne fais pas
Yéhouch. Bon, alors on y va. Donc...
Nous, le Yéhouch qu'on connaît, c'est que la personne, elle ne sait pas qu'elle a perdu l'objet.
Voilà.
Et quand elle va le savoir, qu'elle va prendre sa décision.
Et là, c'est le chidouche de Ravashi. Bonne question, très bonne question.
Et là, avant de faire.
Voilà. Ça veut dire que là, mais là, c'est pas un Yéhouch rétroactif. Attention. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est qu'avant même de commencer son affaire.
C'est pas un Yéhouch.
Non, c'est pas un Yéhouch. Parce que le problème, c'est qu'on est obligé de passer par Yéhouch.
Oui. Il abandonne, mais pas rétroactif.
On aurait pu penser que ça s'appelle pas un Yéhouch, que tant que la personne n'a pas abandonné, effectivement, c'est pas bon. Qu'est-ce que nous apprend ?
C'est pas grave, tu peux voir que ça.
Qu'est-ce que nous apprend là ?
Il y a une nuance, si c'est un objet qui a été perdu par un goy.
Oui, mais ça, c'est des sujets qu'on a déjà... Là, pour l'instant, on reste dans ce que la Gemara parle. Toutes les questions comme ça, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, dans la Khazara.
Non.
Donc, qu'est-ce qu'a répondu Ravashi ? Ravashi a répondu, il a dit, puisqu'on a un facteur qui s'appelle les shkatim romatim, ça veut dire qu'on a les insectes, que les insectes, que de toutes les façons, vont manger cette bête-là, donc le propriétaire a déjà abandonné. Donc on a eu la réponse à notre question. Ravacha continue à poser la question. Ravacha, c'était l'élève de Ravashi. D'accord ? Il pose la question. Il a dit, mais Yat, mais qu'est-ce qui se passe avec les orphelins ? Pourquoi ça nous poserait un problème des orphelins ? Les laves ne mechila ni nous. Alors, il y a ici quelqu'un qui est parti, un homme qui est parti, et qui a laissé un terrain, avec des dattiers par exemple, à ses orphelins, à ses enfants, qui sont devenus de facto orphelins. Et il y a des dattes qui tombent en dessous des arbres qui appartiennent aux orphelins. On a un principe dans la halakha, qui dit, on ne va pas trop s'étendre sur ce sujet, parce que de toutes les façons, je vais arriver au sujet d'après. Donc il pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe avec les orphelins ? Quand moi je vois un dattier, qui me dit que ce dattier n'appartient pas à des orphelins qui, eux, ne pouvaient pas être mochel.
Ça remet tout par terre.
Bonne question. Alors, Ravashi répond. Amar le Ravashi, Ravashi lui a dit, Baga be'ar adayat me le marzekinel. Il dit, on parle ici que c'est une vallée. Et dans une vallée, il y a beaucoup d'arbres. D'accord? Beaucoup de champs et beaucoup d'arbres. Et nous, statistiquement, on sait que le taux de champs, le taux de dattier qui appartient à des orphelins est minime. Normalement, ça appartient pas à des orphelins. Donc, puisque nous, on doit se baser sur les statistiques dans tout ce qui concerne le Yéhouch, on considère que les dattes que tu as trouvées, ils viennent pas d'un dattier qui appartient à des orphelins. Donc, il a répondu à la question. Alors, il a continué l'élève, hein, Rkik, il pose la question, il lui dit, Rkik, c'est qu'il veut, il va être sûr d'avoir bien compris. Ouais. Il lui dit, mais Mourzak Bomet, si on sait que le dattier appartient à des orphelins, Maï, quel est le dîme? Ou bien, d'accord, Krarta, Maï, qu'est-ce qui se passe si les dattes sont tombées autour d'un arbre, d'accord, autour d'un arbre qui est entouré avec des pierres, et qu'on sait qu'il est entouré avec des pierres de manière à ce que les reptiles n'arrivent pas à rentrer autour de cet arbre. Ça veut dire que le propriétaire a montré par cette construction qu'il compte pas abandonner les dattes qui tombent aux reptiles. Il dit, tiens, Maï, quel est le dîme? Alors, à Marley, il a dit, ben, effectivement, à Syrah, dans ce cas-là, t'as pas le droit de les prendre. Si tu sais que ça appartient à des orphelins, etc., là, dans ce cas-là, t'as pas le droit de les prendre. Oui. Donc, avec ça, on conclut.
Même si c'est pas pour orphelins, si t'as vraiment l'intention de les garder.
Ou bien orphelin, ou bien qu'il a montré qu'il voulait les garder. D'accord? Donc, avec ça, on conclut le sujet. Yehush Shelomidat. D'accord? Yehush Shelomidat, c'est Yehush Retroactif. Qu'est-ce qu'on a répondu? Yehush Retroactif, ça ne marche pas. D'accord? On est clair. Yehush Retroactif, ça ne marche pas. Et on a même amené une histoire dans laquelle on a dû rafistoler un peu l'histoire pour expliquer que pourquoi on avait le droit de le prendre. C'est cette date-là qui tombait de l'arbre. On a dit parce que, puisque depuis le début, la personne sait qu'il aura des pertes, au passant, on a pris quelque chose de grand. Quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à maintenant.
Que
des pertes qu'une personne abandonne depuis le début, avant même que ça arrive, c'est le contraire du rétroactif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit que quand la perte va arriver, on considère que c'est déjà le Yehush est déjà fait depuis le début.
Ouais, pour expliquer quelque chose, ils viennent ils ont amené quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent.
Du coup, on a pris quelque chose.
En deux lignes, ils ont balayé un truc qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est-à-dire les pertes que la personne prévoit avant, qu'elles sont considérées comme
Yehush. Décote, c'est ça, comme ça on appelle ça. Donc on a appris que ça est considéré comme Yehush. Très bien. La Gemara continue maintenant. On va développer la suite de la Mishnah. Tout ça, ce qu'on a amené ici, c'était pour développer que le début de la Mishnah. Début de la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Perot Mefuzarim, des fruits qui étaient éparpillés. Alors du coup, on était parti dans un trip, qu'est-ce que ça veut dire des fruits qui sont éparpillés, combien éparpillés, où éparpillés, et peut-être qu'il les a abandonnés, peut-être qu'il les a pas abandonnés. On est parti, ça fait 3 pages qu'on a parlé de ça. Maintenant, on va parler de la suite de la Mishnah. Mishnah, elle continue, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Krichot Birchut Arabim Areilu Shelo. La Mishnah avait dit que quand c'est Krichot, Krichot, ça veut dire, comment il traduit Krichot ici?
Des germes,
d'accord? Alors, je sais pas comment il va traduire après, mais krichot, ça veut dire c'est des germes, d'accord, ça veut dire c'est des épis, c'est pas un stock, d'accord, c'est pas industriel, c'est quelque chose que la personne achète au marché, qu'il amène chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Birshut Arabim, Areilu Shelo. Si on l'a trouvé dans le domaine public, Areilu Shelo lui appartient. Alors maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le concept de Yehush, on sait que c'est pas comme ça, on dit Arelu Shelo, peut-être qu'il y a un siman. Imaginez-vous que la personne a attaché ses germes d'une manière particulière. Il a fait un nœud, je sais pas, en forme de cœur. D'accord? C'est quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire que dans sa tête, il compte le retrouver, même si statistiquement, il ne va pas le retrouver. Mais puisqu'on vient d'apprendre que le Yehush rétroactif ne marche pas, tant que la personne n'a pas abandonné, tu ne peux pas les prendre. Pourquoi tu dis Arelu Shelo, ils sont à lui? Peut-être qu'il a fait un siman, peut-être qu'il a fait un signe dessus, et que la personne n'a pas encore fait Yehush. Alors bien sûr, vous allez me répondre, vous allez me dire, oui, mais jamais il va retrouver, c'est pas parce qu'on a fait un cœur sur des gens qu'on va les retrouver. Voilà, tu as raison.
Mais
le même principe qu'on a dit.
Les insectes, d'accord, et les machins vont les manger, non, les chiens.
Très bien. Là, on a un autre facteur qui va venir. D'accord. Amar Rabba a dit, c'est intéressant parce que dans le cours d'aujourd'hui, on va prendre beaucoup de nuances sur le cas de Yehush. Là déjà, on a pris le concept des pertes, des décotes. Maintenant, on va prendre un nouveau concept. Qu'est-ce qu'il dit Rabba? Rabba. Quand il y a un hé à la fin, c'est Rabba. Amar Rabba, Rabba a dit comme ça. Va filou bedavar chez Hbo Siman. Même si il y avait un siman. C'est-à-dire que même si il y avait un siman, il y avait un signe distinctif sur les germes. Par exemple, je vous ai dit, le gars, il a attaché ses gerbes avec un fil, il a fait une forme de cœur. C'est-à-dire, c'est clair que le gars, dans sa tête, quand il les a perdus, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bon, je vais les retrouver parce qu'il y avait une forme de cœur. Il y avait ma signature dessus. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Rabat, il dit que même s'il y a un siman, même s'il y a un siman, Arel Shelo, il t'appartient. Alors, il faut expliquer pourquoi. Parce que avant, on a expliqué que Yehoud rétroactif, ça ne marche pas. Alors, expliquez-moi comment ça marche.
C'est peut-être dans le cas d'accord où ça risque de s'abîmer. Et
ah, là, bah, ah, très bien. Alors, on va voir tout ça dans la Gemara. Mais déjà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? D'accord. La Gemara pose une question. La Gemara, ça dérange que Rabat vient de dire ici. Puisque nous, on arrive à la conclusion que Yehoud rétroactif
n'existe pas.
Donc dans ce cas-là, quand je trouve par terre des gerbes avec un signe, qui me dit que le propriétaire a déjà effectivement abandonné? Donc la Gemara dit, Alma, de là j'apprends, que Kassava Rabba, que Rabba pense, Siman, et là encore on a un nouvel élément qu'on va prendre aujourd'hui, Siman a Asu Ilidares, et là on aura des questions et réponses qui vont aller dans tous les sens, sur cet élément qu'on va dire. Siman a Asu Ilidares, lo ave Siman. Siman a Asu Ilidares, ça veut dire un signe, d'accord, qui a sous l'idares, ça veut dire qu'on sait qu'il va être l'idares qui va être écrasé. Alors on va essayer de donner une bonne traduction à ça, puisque c'est une notion qui va revenir plusieurs fois dans la suite. Siman a sous l'idares, bon là, avant on avait dit Yehoud rétroactif, maintenant comment on peut appeler ça? Un siman, ça veut dire comme ça, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, et ensemble on va essayer de trouver une définition. On va prendre l'exemple des gerbes. D'accord? Dans les gerbes, j'ai fait un siman, peut-être, mais je sais qu'avec tout le monde qui va marcher dessus dans la rue, d'accord? Le siman va partir. C'est un siman qui va partir. Comment il traduit ici, siman la suite d'adresse?
Signe distinctif dessiné, piétiné par les passants.
Donc on va traduire ça par un siman destiné à disparaître.
On va dire un siman éphémère.
Bravo.
Provisoire.
Provisoire, oui.
Provisoire, c'est mieux. Oui.
Provisoire.
Non,
ouais.
Éphémère. Parce que provisoire, c'est pas forcément provisoire.
Éphémère, ça dure au début, mais
après... On va pas se prendre la tête. Un siman destiné à disparaître.
À ne plus être un siman.
D'accord. Un siman destiné à disparaître. Et ça peut aller très loin, le concept du siman destiné à disparaître.
Bah oui, alors là, on rentre dans un autre truc.
Ah, c'est une autre paire de manches. Ah ouais. Moi, j'ai mis un siman, mais on sait qu'avec le temps, ton siman, il va partir. D'accord. Alors, la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce qu'un siman a un souïd d'arès? Est-ce qu'un siman qui est destiné à disparaître, est-ce que c'est considéré un siman tant qu'il n'a pas disparu? Ou bien, puisque depuis le début on sait que c'est un siman qui est destiné à disparaître, on considère que c'est pas un siman dès le départ.
C'est donc un yéhouch.
Donc c'est un yéhouch. Non, donc c'est considéré comme un objet qui n'a pas de siman.
Oui.
Donc s'il n'a pas de siman, c'est un yéhouch. Vous me suivez?
Oui, mais s'il ne croit pas, alors pourquoi le propriétaire aurait mis le siman d'un côté?
Nous on se base pas sur le
c'est
propriétaire.
C'est rien qu'un emballage.
Nous on se base pas sur le propriétaire maintenant. Le propriétaire, peu importe qui pense. Nous, on dit qu'un siman qui est destiné à disparaître, pour nous, alarquiquement, on considère comme si qu'il n'y a pas de siman.
Après, il aurait mis un siman.
Peu importe.
Un siman. C'est peut-être pas un mamache, un siman.
Alors, c'est ça la
marque. C'est son emballage.
Non. Pas
il dit, ils vont voir mon emballage.
Tu poses une bonne question. Non, il pose une bonne question.
Pour l'instant, ça reste un siman. On ne peut pas dire que c'est pas un siman.
Siman a Asu Ilidares, un siman qui est amené, qui est destiné à disparaître.
Mais le propriétaire sachant pertinemment que ce siman a quoi.
Alors est-ce que...
Il ne met même pas de siman.
Bonne question, c'est une question que tu poses. Mais là, la lacha, messieurs, s'il vous plaît. Là, la lacha est en train de... Messieurs, s'il vous plaît. La lacha est en train de fixer ici qu'est-ce qu'on définit comme un siman. D'accord. Là, on va avoir une marloquette entre Rabba et Rava. Rabat avec un hé à la fin, Ravat avec un alef à la fin. Marloquette entre Rabat et Ravat. Est-ce qu'un siman qui est destiné à disparaître, est-ce qu'on considère comme un siman, ou bien on ne le considère pas du tout comme un siman? C'est simple, c'est-à-dire c'est une marloquette alachique. Peu importe ce que le propriétaire pensait. Marloquette alachique. Comment définir ce siman? Alma Kassava Rabat. Donc de là on voit, pas tout le monde sera d'accord avec lui. Je comprends si vous n'êtes pas d'accord avec Rabat, je peux comprendre. Il y a d'autres qui ne seront pas d'accord avec lui. Alma Kassava Rabba, de là je vois que Rabba pense que Siman a Asu Ilidares, un signe qui est destiné à disparaître, d'accord, le ave Siman, ça n'est pas un Siman. Pourquoi? Parce que quand le propriétaire l'a perdu, il s'est lu de toutes les façons avec tout le monde qui va marcher, ce signe est destiné à disparaître, ce signe est destiné à être piétiné. On va reprendre notre cas des Krichot de Rishut Arabim. Quelqu'un a trouvé des gerbes dans le domaine public. Ces gerbes avaient un signe particulier. Quel signe on peut avoir dans des gerbes, d'après vous? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure.
Elles sont nouées par 8.
Elles sont nouées par 8, ou bien elles sont, le gars il a fait un nœud forme de cœur.
Avec un fil bleu.
Avec un fil bleu, exactement. Siman, tout ça s'appelle Siman Asui Lidares. Non, le fil bleu, c'est pas un bon cas. Parce que le fil bleu,
il est décoloré.
Non.
Il va pleuvoir.
Il faut que ce soit un signe qui se destinait à disparaître. Donc, de là, on voit qu'avec ça, la Gemara va expliquer pourquoi Rabba a dit que même s'il y avait un siman, même s'il y avait un signe distinctif dans les gerbes, tu les trouves dans le domaine public, ils t'appartiennent.
Oui, parce que c'est un signe qui est destiné.
Pourquoi ? Parce que bien qu'il y ait un signe, c'est un signe qui est destiné à disparaître. Selon Rabba, un signe qui est destiné à disparaître, c'est comme si, nada, il n'y a pas de siman. Donc, puisqu'il n'y a pas de siman, quand on trouve un objet sans siman, on peut le prendre ou pas ?
Ben oui.
D'accord ? Très bien.
Nada.
D'accord ? Donc, siman a celui d'arrêt, le avait siman. Un siman qui est destiné à disparaître, le avait siman, il n'est pas siman. Et là, attention, écoutez bien ce qu'on va dire ici. Bien entendu, il fallait pas que ça passe, ça pouvait pas passer facilement. Parce que, encore une fois, c'est un nouveau concept, ça. Hein. Il y a un siman qui est destiné à disparaître. Dès le départ, c'est pas comme un siman. C'est-à-dire que, vous savez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, Dov, tu as perdu une gerbe avec un siman. D'accord ? Moi, je trouve l'objet, Mendiasoulou, je trouve l'objet avec le siman qui est encore là. Qu'est-ce qu'on te dit ? Puisque le siman est destiné à disparaître, donc c'est comme si qu'il n'y a pas de siman. Bien que le siman est encore là, il n'est pas parti encore.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il est là.
C'est très compliqué à admettre comme idée.
Alors ça, c'est... Bon.
Le mec, il a mis un siman. Je trouve avec le siman.
Mais comme c'est un siman qui est destiné à disparaître...
Ah oui, mais lui, comment il a pensé, ça, son siman?
Moi, honnêtement, je comprends très bien ce que Rabba dit. Ce que Rava dit que je veux pas comprendre. Bon. Il y a une marque loquette. Je comprends que t'es pas d'accord. Rava n'est pas d'accord. Ah mais parce qu'il faut définir alarchiquement, c'est ce que monsieur, il faut définir pourquoi ça marche pas.
Des choses qui sont pas
Alors, ce qu'on a défini alarchiquement, c'est qu'un siman qui est destiné à disparaître, pour nous, juridiquement parlant, dès le départ, c'est pas considéré comme un siman. On a beaucoup de choses, même dans la loi française, que puisque c'est une preuve qui ne tient pas, donc dès le départ, on la considère pas, on n'attend pas que tu la casses. D'accord ? Mais on a quand même Rava qui est pas d'accord. Oui, on a quand même ce que monsieur, ce qui est très juste. Il dit oui, mais
il y avait un signe quand même.
Il y a un signe quand même.
Mince alors.
Et moi, quand je l'ai trouvé, l'objet, il y avait encore le signe. D'accord ? Ce que vous dites, c'est ce que Rava. Ce que vous dites, c'est Rava qui dit.
Donc on est bien conscient, quand on a trouvé l'objet qui a encore le signe, à qui il est ?
Rava dit, le chanou et la bédavar, chan bossiman. Rava dit non, pas du tout. Rava avec un aleph, Rava, il dit pas du tout. Il dit dans quel cas on a dit, dans la Mishnah, que si on trouve des gerbes dans le domaine public, on peut les prendre. C'est seulement Bedavar chez En Bosiman. C'est seulement si c'est quelque chose qui n'a pas de signe distinctif. Donc il n'est pas d'accord avec Rava. Aval Bedavar chez En Bosiman. Mais si les gerbes qu'on a trouvées dans le domaine public avaient un signe distinctif, Chayav Leachiz. Il a l'obligation de proclamer. Proclamer, ça veut dire qui a perdu des gerbes. Celui qui a perdu des gerbes, il pourra les retrouver avec un signe. Donc Alma, Kassava Rava. Donc de là, je comprends que Rava pense, d'accord, que Siman a souillé d'Ares avec Siman. Que Rava pense qu'un siman qui est destiné à disparaître, c'est un siman. Et c'est pour ça que selon Rava, on ne peut pas expliquer que la Mishnah parle d'un cas que les gerbes ont un siman, parce que si les gerbes avaient un siman, même si le siman est amené à disparaître, c'est appelé un siman. Donc on a ici une machloquette claire entre Rava et Rava. Est-ce qu'un siman qui est destiné à disparaître, donc plus tard on appellera ça siman aasui lidares, un signe qui est destiné à disparaître, est-ce que c'est appelé un siman ou ce n'est pas appelé un siman. Rabba dit que dès le départ, ce n'est pas appelé un siman. Et Rava dit, si, c'est appelé un siman. Tant que le signe n'a pas disparu, c'est un siman. Toi, tu l'as trouvé avec un siman ? Question de M. Krakowicz. Tu l'as trouvé avec un siman ? Il y a un siman. Donc, tant que le siman n'a pas disparu, eh ben il est là.
Ça, c'est Rava.
D'accord ? Marloquet.
C'est en plus, c'est en Marloquet. Rava et Rava, c'est encore plus difficile que quand c'est deux autres.
Donc, Marloquet, Rava, Rava. D'accord ? Marloquet, Rava, Rava. Rabba, il dit que le signe ne démarre pas dès le départ. Rabba, il dit, si, le signe démarre. Ve'ikaz matne la hashmata. Bon, ça, c'est typique Gemara, ce qu'on dit tout de suite. Il y en a qui disent que cet enseignement qu'on vient de dire ici, la machloket qui a eu entre Rabba et Rava, n'a pas été dans le cadre de notre Mishnah. Parce que là, comment on l'a expliqué? C'est une machloket qui était dans le cadre de notre Mishnah. Comment expliquer la Mishnah? Est-ce que la Mishnah parle, quand elle a dit qu'on parlait des gerbes dans le domaine public, est-ce qu'on parlait d'un cas où les gerbes avaient un siman? Ou est-ce qu'on parle d'un cas où le gerbe n'avait pas de siman? On a une marloquette. Et par rapport à ça, on a expliqué que dans cette marloquette, Le moteur qui se cache derrière cette marque loquette, c'est quoi? C'est est-ce que un siman qui est amené à disparaître, est-ce que c'est un siman ou pas un siman? Il y en a qui disent que le cadre de la marque loquette d'Abaye et Rava, de Rava et Rava, n'a pas été sur la Mishnah. C'était une marque loquette.
Hors antenne.
Hors antenne. D'accord? Mais Anpe Nafsha, c'est une marque loquette à part qu'ils avaient au Beit HaMidrash. Que Rava Amar le avait siman, Rava Amar avait siman. Que Rava disait qu'un signe qui est amené à disparaître, c'est pas un signe dès le départ. Et Rava a dit que c'est un siman. Qu'est-ce que ça change si c'est une marque loquette hors antenne, si c'est une marque loquette à part ou pas? Ça change pas. C'est juste historiquement parlant, on sait pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire que les élèves qui sont venus répéter dans la Gemara une vieille marque loquette de Rava et Rava, qui s'est passée plusieurs centaines d'années avant, ils savaient pas comment ça s'est passé. Ils savaient pas est-ce que la marque loquette c'est une marque loquette qu'ils avaient en général, ou est-ce que c'est une marque loquette qui s'est réveillée dans le cadre de notre Mishnah. Quoi qu'il en soit, le concept reste le même. Ils sont en marque loquette sur le concept du Siman Asu Ildares, un signe qui est amené à disparaître, qui est destiné à disparaître. Est-ce que, dès le départ, ce signe ne sera pas un signe, ou est-ce que, on va dire non, c'est un bon signe. D'accord ? Marque loquette. Bon. Alors,
pourquoi ils ont dit ça, là ?
Ce que je vous dis, c'est juste historiquement parlant, pour savoir comment ça s'est passé.
D'accord, mais ce texte qui est là, là, qui vient nous dire ça, c'est seulement pour nous... c'est une anecdote, quoi. Non, il y a une raison qui vient nous dire que c'était hors antenne.
Pour le plan historique, pour savoir.
Pour le plan historique.
C'est tout.
Bon. Des fois, dans la Gemara, on peut passer des pages entières sur des choses qui... A priori, des fois, ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Dans la halakha, ça ne change rien.
D'accord.
C'est pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. C'est comme quand on vous dit un tel a dit, et il y en a qui disent que c'est un tel, et il y en a qui disent que c'est un tel, et il y en a qui disent que c'est un tel. Des fois il y a cinq fois comme ça, cinq noms. Et il y en a qui disent que c'est un tel. Qu'est-ce que ça change
C'est pour nous embrouiller.
Alors maintenant, on va avoir dans le même style des preuves qu'on a eu avant sur Abaye et Rava. Là, la marloquette qui est entre Rava et Rava, la Gemara va essayer d'amener des preuves de chaque côté. Et on arrivera à une conclusion, Bezrat
Hashem. D'accord. Ça va durer.
Dans le même style.
Que
ça va durer, mais un peu moins. Ça va durer la moitié de... Je pense qu'on finira le cours prochain.
Il ne faut pas perdre le fil.
On a inventé que c'est Rava Karet.
La question, elle est où?
Je reste convaincu. Alors,
pour qu'on reste dans la question.
Alors, écoutez bien, Nan, on va amener une preuve de l'autre Mishnah. On va pas chercher loin. On va amener une preuve de l'autre Mishnah pour Rava. Qu'est-ce qu'a dit Rava, M. Krakovitch? Rava dit qu'un signe qui était destiné à disparaître, ce n'est pas un signe. Donc on va amener une preuve pour Rava. Nan, c'est enseigné dans la Mishnah. Quand c'est écrit Tania, ça veut dire c'est une Braïta, par des Amoraïm, d'accord, qui ont vécu donc plusieurs centaines d'années après les Tanaïm. Et quand c'est écrit Nan, ça veut dire c'est une Mishnah. C'est ceux qui ont composé la Mishnah. Donc c'est enseigné, et dans ce cas-là, c'est notre Mishnah. C'est enseigné comme ça. Rabim, si une personne a trouvé des gerbes dans le domaine public, à Réelouchelo, ils sont à lui. Très bien. Ça, jusqu'à là, on a vu. Ça, c'est ce qu'on a vu avant. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce que la Mishnah va dire dans la page 25, 25b. Il y a une seconde Mishnah qui va venir par derrière, et qui va dire que Birchut Ayachid, si on a trouvé ces mêmes gerbes, mais c'était dans un domaine privé, Notel ou Machid, il doit les prendre, il doit les proclamer. Alors là, attention, il faut bien comprendre, quand je dis domaine public, domaine privé. De manière générale, dans la halakha, quand on parle de domaine public et domaine privé, ça veut dire chez moi à la maison, ça appartient à quelqu'un, d'accord? Ça appartient à quelqu'un, c'est un domaine privé. Et domaine public, c'est quand c'est dehors dans la rue. Alors là, dans ce cas-là, si on explique comme ça, on comprend pas. C'est évident. Ça veut dire quoi, t'as trouvé quelque chose chez quelqu'un? Je rentre chez toi, j'ai trouvé quelque chose, ça veut rien dire. Attention, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est la Gemara qui expliquera dans la page 25, que, attention, quand on parle ici de domaine privé et de domaine public, on parle pas de la même chose. Les deux sont les domaines publics. Seulement quand le domaine public qu'on appelle ici, c'est un domaine, ça veut dire où il y a une grande affluence. Ça est le Champs-Élysées. D'accord? Et quand on parle d'un Rechuta Yachid dans un domaine privé, c'est également un domaine public, mais c'est un domaine public dans lequel il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. C'est un petit passage, un petit chemin. D'accord? Et c'est ça la différence qu'il y a dans les deux cas. On te dit, si tu as trouvé des gerbes, donc ces mêmes gerbes que j'ai trouvées dans notre Mishnah, que j'ai trouvées dans un endroit dans lequel il y avait une grande affluence, là on comprend. Comme il y a une grande affluence, donc certainement que le signe est amené à disparaître. Les gens qui vont marcher dessus vont savoir ce qui va se passer. D'accord? Alors, en passant, il y a un facteur que la Gemara amènera après, que les gens ne marchent pas sur la nourriture. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Même les goïms ne marchent pas sur la nourriture. Pour des facteurs qu'on verra après. D'accord? Bon, on verra après.
Ils ne marchaient pas.
D'accord? Maintenant, ils marchent, exactement. Hein, vous voyez les gens comme ils marchent, ils marchent n'importe où. Ils n'ont rien à faire.
Bon.
Pour l'instant, la Gemara ne sait pas. Enfin, la Gemara ne sait pas de tout ça. La Gemara, c'est simplement que on a dit dans notre Mishnah que si on a trouvé des gerbes dans un endroit dans lequel il y a une grande affluence, ils sont à toi. Mais si c'est un endroit dans lequel il n'y a pas une grande affluence, Notel ou Machid, pardon, il doit prendre et les proclamer. Alors, c'est très simple, on va prendre cette Mishnah-là, et a priori c'est une preuve évidente, l'évidence est claire, d'accord ? Les évidences sont claires, la preuve est là pour Rabba. Pourquoi ? Et Ridabi. De quel cas parle notre Mishnah ? La deuxième partie de la Mishnah qui a dit que quand on était dans un domaine privé, tu as l'obligation de le proclamer. Enfin dans un domaine privé, non, dans un domaine où il n'y a pas de grande affluence. Comment on appellerait ça en français ? Un domaine public, qu'il n'y a pas de grande affluence, définition.
Semi-public, ou non même pas.
Ah bon.
Bon, allez.
Un endroit désert, on va appeler ça un endroit désert. Ok. Echizami.
Peu fréquenté.
Peu fréquenté. Echizami, comment on peut dire ? Idelet Bausiman. Donc on va essayer d'analyser, écoutez bien comment on va analyser la Mishnah. Attention. La Mishnah de la page 25 est à la suite de notre Mishnah. Ça veut dire que ce qu'on explique dans une Mishnah, il faut l'expliquer dans l'autre. Ça doit être le même cas. Dans les deux cas, la Mishnah répète Kichot, Birchut, Ayachid, Birchut, Arabim. Chaque fois, on parle des gerbes. Alors, je te pose une question. Ces gerbes-là, on ne sait pas s'ils avaient un siman ou pas un siman. Mais ce que tu expliqueras au début, dans la première Mishnah, il faut l'expliquer dans la deuxième, puisque c'est une suite. Donc, il dit comme ça. Echidami, de quelqu'un on parle. Idelet, Bo, Siman. Si tu me dis qu'il n'y a pas de siman, il n'y a pas de siman distinctif. Birchut, Ayachid, Maimariz. Alors, dans ce cas-là, dans le domaine peu fréquenté, tu m'as dit Notel ou Mariz, il doit proclamer. Il proclame quoi? S'il n'y a pas de siman. Il a trouvé des gerbes par terre. Qu'est-ce qu'il va proclamer?
J'ai trouvé des gerbes.
J'ai trouvé des gerbes.
Tout le monde va lever la
d'accord.
main. C'est à
tout
moi.
Tout le monde va lever la main. C'est quoi le concept de marise, proclamer? Je proclame que j'ai trouvé des gerbes. Celui qui les a, celui qui pense être le propriétaire, qui vienne me voir et qui me donne un siman. Par exemple, il me dit il y avait 8 gerbes qui étaient attachées ensemble. Ou bien il me dit il y avait un fil rouge qui est attaché autour. D'accord? Là, je suis bien d'accord. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de siman, dans ce cas-là, on ne peut pas comprendre la fin de la Mishnah. S'il n'y a pas de siman, il n'y a rien à proclamer. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de siman. Vous me suivez? Très bien. Et la lave des Itbaou Siman. Donc on est obligé de dire qu'il y a un siman. Qu'il y a un siman qui est un signe distinctif. Et puisqu'il y a un signe distinctif, c'est pour ça que quand c'est dans un endroit peu fréquenté, d'accord? Donc la seule manière d'expliquer cette Mishnah, d'expliquer la différence, c'est si on l'explique comme Rabba. Qu'est-ce qui fait la différence entre un domaine public et un domaine peu fréquenté et un domaine à forte affluence? C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Et la lave seulement des Itbaou Siman. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un siman. Vekatane birchut arabim areilushelo. Et pourquoi dans le domaine public ça lui appartient? Alma, chez siman, asuilidares, loave siman, tuftaderava. Je rappelle, on avait une marloquette entre Rabba et Rava. Rabba a dit qu'un siman qui est amené à disparaître n'est pas un siman. Alors que Rava a dit qu'un siman qui est amené à disparaître, c'est un siman. On a une question très simple sur Rava. On dit, regarde bien notre Mishnah. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si on est dans le domaine public, dans le domaine à forte affluence, tu peux les prendre. Si on est dans un domaine dans lequel il n'y a pas de forte affluence, un domaine peu fréquenté, dans ce cas-là, il faut proclamer. On ne peut pas dire que cette Mishnah parle d'un cas où il n'y a pas de siman, parce que s'il n'y a pas de siman, il n'y a rien à proclamer. Donc on est obligé de dire qu'il y a un siman. Il y a un signe distinctif dans les deux cas. Alors moi, je vous pose une question maintenant. S'il y a un signe distinctif dans les deux cas, qu'est-ce qui fait la différence entre le cas du domaine peu fréquenté et le cas du domaine où il y a une forte affluence? Qu'est-ce qui a changé entre les deux?
Où il y a une forte affluence, il risque de s'abîmer plus
facilement. Quel est le seul facteur, a priori? Répondez-moi à la question. Quelle est la seule chose? C'est le même cas. Dans les deux cas, on parle de la même chose. D'accord? C'est les mêmes gerbes, avec un signe distinctif. Une fois, je l'ai perdu dans un domaine à forte affluence, avenue des Champs-Élysées. Une fois, je l'ai perdu, rue Paul-Enfer. D'accord? On te dit, rue Paul-Enfer, s'il y a un signe, tu ne peux pas le prendre. Avenue des Champs-Élysées, tu peux pas le prendre. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Quel est le seul facteur qui a changé entre les deux? Avenue des Champs-Élysées, je peux le prendre. Quel est le seul facteur qui a changé entre les deux?
Le trafic.
Donc, le fait que le siman est amené à
être piétiné,
à disparaître. A priori, c'est la seule différence. Donc, a priori, on a une preuve évidente pour Rabba, que Rabba a dit, voilà, j'ai une preuve d'ici. Un signe qui est amené à disparaître n'est pas un signe. Voilà la preuve. Quand c'est tombé dans le domaine public, et que dans le domaine public, le signe est amené à disparaître, qu'est-ce qu'on te dit dans ce cas-là? C'est pour ça que ça marche pas. Sinon, il n'y a aucune manière d'expliquer la différence entre le domaine, entre rue Paul-Enfer et avenue des Champs-Élysées. Quelle différence il y a entre les deux? Les deux, ça appartient à la mairie de Paris. Quelle différence entre les deux? Aucune différence. Et pourtant, dans le cas de l'avenue des Champs-Élysées, tu me dis, ah, tu peux les prendre. Et dans le cas de rue Paul-Enfer, tu dis, non, il faut proclamer. Quelle différence entre les deux? La seule différence qu'on peut trouver entre les deux, a priori, a priori, c'est le fait que avenue des Champs-Élysées comme une forte affluence, donc le signe va forcément disparaître, donc un signe qui est amené à disparaître ne tient pas.
Donc, n'est pas un signe. La partie de la Michelin est d'accord avec Rava, et la partie de la
Michelin. Ah non, pas du tout.
C'est
la même Michelin. C'est la même Michelin.
Dans le domaine privé, c'est pas décidé de spitiner.
Oui.
Pour
oui, c'est pour ça.
Ben oui, mais tu.
Oui, c'est bon, ça, tout le monde est d'accord.
Quand même, tu sais pas.
Le seul facteur qui nous dérange ici, c'est qu'est-ce qui a changé entre le domaine privé, enfin entre le
Est-ce
domaine.
Que dans le grand domaine public, on peut le prendre.
On peut le prendre. Pourquoi tu peux le prendre? Attention, n'oubliez pas, les deux, c'est les domaines publics. Seulement un, c'est forte affluence, d'accord. L'autre, c'est l'autre, il peut fréquenter.
Ils peuvent passer.
Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi rue Paul Enfer, je dois proclamer? Je suis obligé de dire qu'il y a un simal, parce que sinon il n'y a rien à proclamer. Pourquoi rue Paul Enfer, je dois proclamer, et avenue des Champs-Élysées, je ne dois pas proclamer. C'est une évidence, c'est la Mishnah qui le dit. A priori, la seule manière d'expliquer la Mishnah, c'est de dire que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que avenue des Champs-Élysées, il y a une forte affluence, donc le signe est amené à disparaître, donc de là, j'apprends qu'un signe qui est amené à disparaître n'est pas un signal. Et c'est pour ça que notre Mishnah aurait dit que si je trouve des gerbes dans l'avenue des Champs-Élysées, tu peux les prendre dès le départ.
Oui, mais alors même dans aussi la rue Paul-Enfer, non. Parce qu'on dit que c'est pas un siman.
Non. Quand je l'ai perdu à la rue Paul-Enfer, le signe n'est pas amené à disparaître dans la rue Paul-Enfer.
C'est un mot de passage.
Attention.
Mais oui, mais si on dit de l'autre côté qu'on a décrété que c'est pas un siman.
Attention.
Des fois, il peut disparaître plus vite.
Attention, il faut se baser sur les circonstances. Sur les circonstances. On se base sur les circonstances, comment ça s'est passé. Quand vous trouvez un objet avec un siman dans la rue Paul-Enfer, c'est gerbe, le temps que le siman va partir, ça va prendre longtemps. D'accord ? Et comme il n'y a pas de forte affluence, bon, personne ne va essayer de marcher sur ces gerbes-là. Vous voulez donner un autre exemple ? Prenez pas rue Paul-Enfer, prenez rue Tagore, il y a moins de monde qui passe là-bas.
Ah oui, voilà. D'accord, mais qu'est-ce que l'avis de Rabat à ce moment-là sur la deuxième partie de la Mishnah ? Qui est dans un domaine public, mais il n'y a pas beaucoup de monde.
Oui, juste ailleurs qu'il devrait l'appeler, oui.
Ouais, que le signe distinctif. C'est pas considéré comme un signe distinctif.
Encore une fois, ce que j'en expliquais à M. Bismuth, là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, Rabat et Rabat. Les deux, ils sont d'accord. Il n'y a pas de question. Puisque le signe n'est pas amené à disparaître. Quand il est dans la rue Paul-Enfer, le signe n'est pas amené à disparaître.
Ouais.
Il va pas disparaître dans la rue Paul-Enfer. Le signe va rester là.
Combien on va marcher à pied?
Combien de personnes vont marcher dessus, déjà? Donc il n'est pas amené à disparaître.
D'accord. C'est quand même un signe distinctif qui est amené à disparaître.
Non.
Non.
Encore une fois, il faut se baser également sur les circonstances où tu l'as trouvé.
Alors, tu considères que le signe distinctif est amené à disparaître,
ça dépend. Il
est sur le grand domaine public.
Avenue des Champs-Élysées, il est amené à disparaître.
Oui, peut-être. D'accord. Non.
De manière générale, statistiquement, il est amené à disparaître. D'accord. Statistiquement, il est amené à disparaître. Attention, ça, il y a un principe que j'ai dit. Déjà, ça fait un. Il y a un principe que. Messieurs.
Même si tu trouves que le signe distinctif était dans un domaine.
C'est un principe que j'ai dit, ça fait un mois. D'accord. J'ai dit que dans le cas de Yehush, contrairement à la règle générale dans la Halakha, dans le cas de Yehush, on se base énormément sur les statistiques. Bien qu'en général, dans la France, on se base pas en général sur les statistiques. Contrairement à l'habitude, dans le cas de Yehush, on se base sur les statistiques. D'accord ? Donc là, statistiquement parlant, Champs-Élysées, le signe est amené à disparaître. Rue Paul-Enfer, il n'est pas amené à disparaître.
Voilà.
Tu le retrouveras comme celui qui va le retrouver, certainement qu'il retrouvera avec le petit cœur que tu as laissé.
Un simple exemple. J'ai perdu une recette. Un jour, j'étais en scooter. Je l'ai perdu devant... comment elle s'appelle, la boulangerie dans le 13e, là.
Madeline.
J'ai perdu un paquet d'une recette. D'accord.
Une
recette d'argent.
Avec des ingrédients.
Avec une recette d'argent. Il y avait 1000 euros dedans, des chèques, des machins, des talons de carte bleue. Et je me dis, je la cherche partout. J'avais un magasin à l'Italie à l'époque. Je la cherche partout, mais où j'ai la recette. Et à la fin, je me dis, le seul endroit où je n'ai pas regardé, j'étais parti acheter des chalotes chez Madeline, c'est là-bas. Mais, et après, je me dis, après tout, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette rue. J'ai peut-être une chance. Je repars, et le paquet, il y avait des voitures qui avaient roulé dessus, il était au milieu de la rue, un paquet, un petit sac de bretelles blanc, là, au milieu de la rue. Je vais arrêter. Sachez que si j'avais perdu aux Champs-Élysées, j'aurais pas fait le voyage.
C'est un autre facteur encore ça.
Non, parce que je me serais dit, il y a des milliers de gens qui passent et tout, il y en a bien qui va regarder, il y a des milliers de voitures, le sac va exploser. Tu vois, on va avoir des billets sur la chaussée, elle
donc...
est morte.
Ça va répondre à ma question parce que j'ai une situation comme ça. Mazaline, tu parles de Mazaline, ça m'a rappelé justement, à l'entrée du magasin de Mazaline, j'ai trouvé un billet de 10 euros.
Ah, c'est un...
Mais ça m'a travaillé ce truc-là parce que bon, moi, je l'ai mis quand même de la Sedaka, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai demandé d'abord à Mazaline, je lui ai dit, est-ce que quelqu'un a perdu ces 10 euros?
Ils m'ont dit non. Je voulais leur remettre, ils m'ont dit non, moi on ne veut pas les prendre.
Vous pouvez le garder.
Vous pouvez le garder.
Mais comme c'était dans un endroit privé, là, ça, peut-être ah, que j'ai attendu peut-être quelqu'un allait réclamer.
On va parler ça, on n'a pas encore parlé de ça. C'est pas la même chose. Quand vous trouvez dans un magasin c'est considéré comme un endroit public.
Dehors.
En plus, c'est dehors, ouais. Dans ce cas-là.
Bon.
Donc, a priori, revenons à notre sujet. Après Bezrat Hashem, je mettrai tout ça sur le tableau. Donc, revenons à notre sujet. On a a priori ici une preuve évidente pour Rabat. Sinon, pourquoi on a une preuve pour Rabat? Parce que c'est la seule manière d'expliquer la différence qu'il y a entre le domaine Rechout Arabim et Rechout Yachid, entre le domaine à forte affluence et le domaine peu fréquenté. Le seul facteur qui a changé, c'est le fait que, a priori, c'est le fait que dans la rue Paul Enfer, le siman ne va pas être, n'est pas destiné à disparaître. Alors, il faut une réponse de Rava. Amar lecha Rava. Rava va te répondre, va te dire non. D'accord. Il va te dire, Léolam, Zelat Beou Siman. En vérité, moi je vais t'expliquer, qu'en vérité, il n'y a pas de siman. Et dans le cas du domaine du Rechout Arabim, et dans le cas du Rechout Ayachi. Et dans le cas de rue Paul Enfer, et dans le cas de Champs-Élysées. Il n'y a pas de siman. Ah, tu vas me poser la question dans ce cas-là. S'il n'y a pas de siman, alors qu'est-ce que tu proclames? Vous vous rappelez la question qu'on avait posée? Toute la question qu'on a posée, c'est basée sur le fait qu'il y avait un siman. Et ça veut dire qu'avec ça, on voulait dire que notre Mishnah va prouver, si il y a, avec ça, on a dit que notre Mishnah va prouver, est-ce qu'un siman qui est destiné à disparaître, est-ce que c'est un siman ou pas? Là, il te répond, la Mishnah n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il répond? Il te dit comme ça, il te dit, en vérité, la Mishnah, elle parle qu'il n'y a pas de siman. Ah, mais s'il n'y a pas de siman, il y a la question que je vous ai posée tout à l'heure. S'il n'y a pas de signe distinctif, alors dans ce cas-là, hein, quand je l'ai trouvé dans la rue Paul Enfer, qu'est-ce que je dois proclamer? Je proclame quoi? S'il n'y a
pas de
siman.
Il n'y a pas de siman.
Il n'y a pas de siman.
Tu peux toujours dire, j'ai trouvé!
Alors, écoutez bien, écoutez bien ce qu'il répond. Il dit, Léolam, Zelet Baou Siman, en vérité, il n'y a pas de siman. Ou des camarades, c'est la question que tu as posée. Birchut Ayachid Maï Mahis. Il arrête, il dit, toute ta question, toute ta construction, tout ton château de cartes, c'est basé sur le fait que toi tu as dit qu'on est obligé de dire qu'il y a un siman. Non, je dis qu'il n'y a pas de siman. Ah, tu as posé la question, mais s'il n'y a pas de siman, alors qu'est-ce qui va bien proclamer dans le domaine public, dans le domaine privé? Alors, dis-moi, j'ai la réponse. C'est quoi la réponse?
Voilà, c'est ce que je disais.
Mahriz Makom. Il va proclamer l'endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va pas proclamer, il n'y a pas de signe distinctif dans les gerbes. Très bien. Mais il va proclamer l'endroit. Ça veut dire quoi? Il va dire, j'ai trouvé un objet. J'ai trouvé des gerbes. Et là, il n'y avait pas de
signe. On peut même pas dire des gerbes.
Si, j'ai trouvé des gerbes. Celui qui me dit l'endroit où je les ai trouvés.
Mais s'il les a perdus, je ne sais pas où il les a perdus, bonhomme.
Voilà votre cas que vous avez donné avec Mazaline.
Oui, ben je ne savais pas.
Très bien. Il dit comme ça.
Je disais, c'est sur le chemin, mais où quand on dit.
J'ai dit comme ça. Donc, dans ce cas-là, le seul signe qu'on peut avoir, c'est l'endroit. Alors attention, ce qu'on va dire, c'est une marloquette. Il y en a qui pensent que ça marche, il y en a qui pensent que ça ne marche pas. Mais Rava pense que ça marche. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Là, on apprend encore quelque chose de nouveau. Rava, il te dit, on peut proclamer également l'endroit. C'est-à-dire, je dis, imaginez-vous que je trouve un objet sur lequel il n'y a pas de siman, un objet sans signe. Il dit, Mahriz Makom. Je proclame l'endroit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je dis, j'ai trouvé un objet. Celui qui me dira l'endroit où je l'ai trouvé, je lui donne. D'accord? Bien sûr, l'objet. D'accord? Alors, j'ai trouvé un objet. Celui qui me dit l'objet que j'ai trouvé et l'endroit.
C'est facile.
D'accord? Mahriz Makom.
Alors, à ce moment-là.
Ça, c'est ce qu'a dit Rava. Donc, dans ce cas-là, avec ça.
Ça n'a plus besoin de ça, au début. Moi, je regarde quelqu'un ramasser un objet, je le regarde bien l'objet, je me tais, j'ai pas besoin d'aller courir à un bed-in pour dire on l'a trouvé ensemble.
Oui.
Non. J'ai perdu ça, cet endroit, il faut qu'il me le rende.
Il est cohérent,
c'est facile.
Et pourquoi ça ne marcherait pas pour la grande artère?
Ah, bonne question. Très bien. Qu'est-ce que vous dites alors, d'après vous? Pourquoi ça ne marcherait pas dans la grande artère?
Parce qu'il n'y a plus de chance.
Exactement. Vous avez répondu vous-même. C'est une bonne question ce que vous posez, une question des richonises.
Alors Rava,
qu'est-ce qu'il répond? Rava, il répond comme ça. Rava, il répond, il te dit, en vérité, il n'y a pas de preuve de notre Mishnah. Moi, je vais te dire que notre Mishnah ne parle même pas. D'accord? Notre Mishnah, ici, ne parle même pas d'un cas dans lequel il y a un siman. Il n'y a pas de siman. Vous voyez, en passant, avec ce que la Gemara dit ici, on comprend pourquoi c'était important pour la Gemara avant, pour nous dire, est-ce que la marloquette qu'ils avaient, est-ce que un siman à Souilidares, est-ce que c'est un siman ou pas? Est-ce que c'était une marloquette hors antenne? Ou est-ce que c'est une marloquette sur notre Mishnah? Parce que là, on voit bien que d'après Rava, qu'est-ce qu'il répond Rava? Rava, il répond, il dit que notre Mishnah ne parle même pas d'un cas où il y a un siman. Donc c'est pas de ça qu'il parlait. Bon, c'est une parenthèse, je referme la parenthèse.
Sauf s'il considère que le siman, c'est le lieu.
Oui, justement. Il dit comme ça, il dit « Amalekha Rava, Rava va te répondre, Léolam de l'Edbe Ousiman, ou de Kamrad, de Shdaïchid Maï, Machiz, Machiz, Makom. » Et quand on dit que, qu'est-ce qu'il doit proclamer? Il doit proclamer l'endroit. Alors en passant, il y a Rishonim qui explique comme ça. La question de M. Daniel, Daniel a posé la question, il a dit, dans ce cas-là, quelle différence, si tu me dis qu'il n'y a pas de signe distinctif, quelle est la différence entre la grande artère et la rue Paul en fer? La réponse est très simple, d'accord? Est-ce que M. Daniel a dit que la personne dans la grande artère ne compte pas la retrouver? Mais il y a encore un autre élément qu'il faut ramener. C'est que dans la grande artère, certainement qu'avant que l'objet ait été trouvé, il a déjà déplacé, il n'est déjà plus au même endroit. Il a déjà été déplacé, il a bougé. Alors avec le nombre de gens qui sont passés, et ça on le voit, le nombre de gens qui sont passés, c'est peut-être que l'objet il est démarré ici, et les gens qui sont passés, ils couraient, etc., une grande affluence, l'objet il est déjà arrivé là-bas. Et seulement quand il arrive là-bas, quelqu'un va dire, mais attends, il y a quelque chose là, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc c'est pour ça que dans un domaine où il y a une forte affluence, l'endroit ne peut pas être un siman. Puisqu'on dit que certainement que l'objet, statistiquement, l'objet a été déplacé. Mais dans un domaine Reshutayach, dans un domaine qui avec une faible affluence comme Rue Paul en fer, que certainement l'endroit où tu l'as perdu, c'est l'endroit où tu l'as trouvé. Mazaline, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, dans ce cas-là, c'est ce qui expliquerait la différence entre Reshutayach et Reshutarami. Maintenant, vers Rabba Amar, Rabba il se défend, il dit non. Il dit Makom, lo avesiman. Il dit l'endroit n'est pas un siman. D'accord? Lui, Rava, qu'est-ce qu'il considère? Il considère que l'endroit n'est pas un siman. Deitmar. C'est-à-dire, le fait que l'endroit où on l'a trouvé, c'est pas considéré un siman. Je crois que c'est que Dov t'a dit comme ça, non? Pourquoi? Deitmar, parce qu'il s'est enseigné. Makom, l'endroit. Rabba Amar, lo avesiman. Fait Rava Amar, avesiman. Donc, encore une autre marque entre Rabba et Rava. Est-ce que l'endroit est considéré comme un siman? Ou l'endroit n'est pas considéré comme un siman? Quelle heure il est, s'il vous plaît? Très bien. Quand on va s'arrêter ici. Quand on va s'arrêter ici. Alors, je mets sur le tableau. Je mets juste sur le tableau ce qu'on a dit. Ok, donc on va commencer. Je vais commencer directement par le. Je vais commencer directement par le sujet qu'on a commencé là.
Siman, il va chercher des trucs dans.
Et Asui,
on écoute le Moré si tu veux.
Lidares. On est bien d'accord, Siman Asui Lidares, un signe qui est amené à disparaître. Oui, on a une marloquette entre
Rava et Rava. Qu'est-ce qu'a dit Rava?
Rava
avec Rava. D'accord.
Qu'est-ce qu'a dit Rabba?
Il a dit que si c'est un signe à disparaître, tu peux le prendre.
Il a dit que quoi?
Si c'est un signe à disparaître, tu peux le prendre.
D'accord. Il a dit que pas bon. Qu'est-ce qu'a dit Rava?
Je fais froid, je me crois.
Qu'est-ce qu'a dit Rava?
Rava, lui, il a dit que si un signe est actif, tu dois le proclamer.
Qu'est-ce qu'il dit? Donc, ça veut dire que c'est un siman ou c'est pas un siman?
C'est un siman.
D'accord. Très bien. Donc, Marloquette, Rava et Rava.
Ah, Siman, pas Siman, d'accord. Siman, c'est bien, la croix et le
cibé, ouais.
Très
bien, la croix et le cibé.
C'est précis toujours dans quel domaine, on est d'accord.
Alors justement, attendez, on va commencer à dire maintenant. Alors on a ici, on a essayé de mettre des preuves pour Rava. On a commencé par un premier cas. Kichot.
Légère.
Après on aura le cas de la Loumot, mais bon, je sais pas.
Non,
Kichot. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Je l'ai trouvé dans le Reshut Arabi. C'est quoi la Lacha?
Le grand, le petit. Ça, je vous apprends.
Quand on non, Reshut Arabim, c'est
Reshut Arabim. Si je trouvais dans Reshut Arabim, dans le domaine public, ça veut
on
dire
prendre,
dans les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on dit?
Le signe n'est pas vérable.
Arélu chez l'eau.
Ça, c'est la Mishnah, ça.
Très bien. Et si je vais le trouver dans Reshut Hayachid, Resh Heyud, ça s'appelle. Reshut Hayachid, avec un hicot, on rajoute un yud à la
fin. Le petit.
D'accord, c'est le. Donc Reshut Hayachid, ça veut dire rue Paul en fer. Qu'est-ce qu'on a dit?
Bah là,
c'est
là, c'est un signe.
D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Notel ou Machiz? Il doit prendre
et proclamer.
Alors, a priori, avec ça, qu'est-ce qu'on a voulu expliquer?
Ouais, ça confirmait la vie de Rabba.
On a voulu expliquer que ça confirmait la vie de Rabba. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Rabba a dit? Siman, un siman qui est amené à disparaître, c'est pas un siman. La seule différence qu'on peut avoir ici, dans les gerbes, entre le domaine public et le domaine privé, entre rue Paul en fer et avenue des Champs-Élysées, c'est quoi? Donc, Arel ou Chélo, donc je vais pareil en fait. La seule différence qu'il peut y avoir entre les deux, c'est que ici, c'est, dans le cas de Reshut Arabim, c'est un siman qui est Asui Lidares. D'accord?
C'est la seule.
Et donc, c'est la seule raison qui peut expliquer la différence qu'il y a entre Reshut Arabim et Reshut Ayachid.
Et Rava, il vient, il dit que c'est pas ça le problème.
Qu'est-ce qu'il répond Rava?
Il dit que c'est pas ça le sujet.
Il dit que c'est pas ça le sujet.
Parlé.
Pardon?
Il fait un trait vertical à gauche.
Ah d'accord, ouais.
Pour bien qu'on voit les camps.
Ok,
Qu'est-ce qui répond Jacob? Qu'est-ce qui répond
Voilà, c'est bon.
Qu'est-ce qui répond Rabba? Ce que vous dire ici.
Il va dire que le problème, il se trouve pas sur le fait que ça a amené à disparaître ou pas.
Voilà. En vérité, on apprend une nouvelle machloquette. C'est quoi la nouvelle machloquette? La nouvelle machloquette qu'on a ici, c'est Makom. Voilà, je fais un autre trait, c'est une autre machloquette. Makom. L'endroit. Est-ce que c'est un siman ou c'est pas un siman? Qu'est-ce qu'il dit Rabba? C'est un siman ou c'est pas un siman? L'endroit dans lequel j'ai trouvé l'objet.
Rabba est...
Rabba dit non, c'est pas un siman.
Non, c'est pas un siman, Rabba dit.
Rabba dit c'est pas un siman. D'accord?
Parce que pour bien faire comprendre que le siman, il tient sur le fait que sur la gerbe.
Et Rava, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que le siman se trouve là. Donc c'est un siman.
Alors avec ça, avec ce facteur-là, Rava va se défendre. Il va dire, moi je vais t'expliquer. Pourquoi on a dit que dans le Shtarabim, pourquoi ça lui appartient en vérité, Rava va dire, moi je vais te dire en vérité qu'il n'y a pas de siman. Toi tu as voulu m'expliquer qu'il y avait un siman. Donc on va expliquer maintenant ici. Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Rava explique qu'il y a un siman. Donc puisqu'il y a un siman, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que ici, pourquoi ça lui appartient? Parce que le siman est amené à
disparaître.
Et dans ici, le pourquoi ça ne lui appartient pas? Parce que le siman n'est pas amené à disparaître.
Et Rava, il dit qu'il n'y a pas de siman.
Rava, il dit non.
Dans la gerbe.
En vérité, elle siman.
Il n'y a pas de siman dans la gerbe.
Il n'y a pas de siman dans la gerbe. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre Shtarabim et Rushtayari, selon Rava?
C'est le Makom.
C'est le Makom. C'est l'endroit. Ici, certainement que dans le Reshut Arabim, certainement que l'endroit a disparu. Donc il n'y a pas de Makom. Certainement que l'objet a bougé d'endroit. Donc il n'y a pas de
siman.
Alors que dans Reshut Hayachi, l'endroit a certainement resté, donc il y a un siman. Et selon Rava, Reshut Hayachi, Makom, selon Rava, le siman il marche. C'est pour ça que quand vous trouvez dans Reshut Hayachi, dans le domaine, dans la rue Paul Enfer, d'accord, et que dans ce cas-là, il y a le signe du Makom, selon Rava, le signe du Makom est un signe, c'est pour ça que je dois proclamer.
Dans les deux cas.
Dans les deux cas. D'accord? Vous avez compris?
Ah ouais.
Voilà. Ça reste ici pour aujourd'hui.
Il y a une petite chose comme ça qui me gêne, tu sais.
La vérité, c'est que maintenant, on va continuer un petit peu.
La vérité.
D'accord. Parce que non, parce qu'il y a un cas juste après. Il y a un cas juste après que la Gemara va amener. Et qui en vérité... ça va être plus compliqué de l'en prendre la semaine prochaine. C'est mieux de le faire maintenant, qu'on a la tête fraîche. Sachma, viens, écoute. D'accord. On va amener une preuve. Et là, la question, on va poser une question, que ce soit pour Rabba et que ce soit pour Rava. Écoutez bien ce que je vais dire. La question que la Gemara va poser une question maintenant, pour Rava et Rabba. Question dans les deux sens. La Gemara pose la question comme ça. Tashma, viens écoute ce qu'on a enseigné dans une braïta. Krichot, birchut arabim, arelu shelo. Si on a trouvé des gerbes dans un domaine public, arelu shelo, ils sont à lui. Ça, on est bien d'accord. On l'a appris dans notre Mishnah. Birchut ayachid, si je les ai trouvés, birchut ayachid, dans un domaine privé. On a dit domaine privé, ça veut dire domaine à faible affluence. Notel ou marise, tu dois les proclamer. Tu dois le prendre et proclamer. Très bien. Donc ils sont pas à toi. Tout ça, on l'a déjà pris jusqu'à maintenant. Mais écoutez bien. Mais écoutez bien maintenant. Écoutez bien le nouveau facteur. Ve'alumot. Comment ils appellent ça, alumot ici? Des grandes gerbes.
De grandes gerbes.
D'accord. Alumot, des grandes gerbes. Là, c'est plus des petites gerbes. C'est des grandes gerbes. Ça devient industriel. Ve'alumot, des grandes gerbes. Ben birshut arabim, ben birshut ayarim. Les gerbes, les grandes gerbes, que ça soit que j'ai trouvé dans un domaine public ou dans un domaine privé, rue Paul Enfer ou avenue des Champs-Élysées, Notel ou Machis, je dois les proclamer. Alors, écoutez bien la question qu'on pose. Rabba, Echimetaretla, Verava, Echimetaretla. Là, on va avoir une question, on va avoir un problème, et pour Rabba, et pour Rava. On va avoir un problème dans les deux côtés. Pourquoi? Rabba, qu'est-ce qu'il a expliqué? Rappelez-vous, Rabba, il nous avait expliqué que lui, il pense que un siman qui est amené à disparaître n'est pas considéré un siman. D'accord? Alors là, je vais écrire sur le tableau. Le tableau va nous aider.
On était tranquille. Pourquoi il m'a
demandé? Un nouveau cas, il s'appelle Alumot. Vous arrivez à voir en vert?
On est tranquille.
Alumot, ça sert à...
D'accord?
Alumot, ça sert à allumer.
Non, c'est pour ça que je vous dis, je préfère finir maintenant ce cas-là, parce que je me suis dit que...
Ah oui, oui, c'est bien fait, parce que ça fait partie de la même suite. Hein.
Alumot.
Une boîte d'alumot.
Ce sont les...
Les grandes gerbes.
Non, les gerbes dans le rêve de Yosef.
Oui. Des grandes gerbes, d'accord? C'est les grandes gerbes, c'est pas les petites gerbes qu'on achète au marché, c'est les grandes gerbes, les gerbes avec lesquelles, les gerbes industrielles. Alumot.
Des meules.
Qu'est-ce qu'on a dit? Reshut Arabim.
Ou Reshut Arabim. Les deux, c'est pareil.
Dans les deux cas,
on annonce.
D'accord?
Notel ou Mahriz.
Notel ou Mahriz. D'accord? Alors, on a une question avec ça, et pour Rava, et pour Rava. Pour les deux, on a une question. Pourquoi?
Pour Rabba, on a une question. Pour Rabba, on a une question, parce que qu'est-ce qu'a dit Rabba, rappelez-vous ? Rabba a dit que un siman qui est amené à disparaître, qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas un siman. Alors si c'est un siman qui est amené à disparaître, c'est pas un siman. Dans le domaine public, le siman est aussi amené à disparaître. Alors pourquoi je dois proclamer ? Qu'est-ce qui a changé maintenant ? Qu'est-ce qui a changé dans la Loumot ? Qu'est-ce qui a changé parce que les gerbes sont grandes ? Et alors, le siman...
elles vont pas se déplacer, les graves.
Non, attention. Selon Rabba, le facteur, n'était pas l'endroit. Le facteur était le fait que le Asui Lidares, que c'est un objet qui est amené à disparaître. Que c'est un signe qui est amené à disparaître. Alors la Gemara pose la question. Elle se dit, mais dans ce cas-là, en quoi le fait que les gerbes sont grandes, le signe ne va pas disparaître ? Le signe va disparaître aussi.
On ne peut pas piétiner une gerbe de 5 mètres de haut.
Ah, attends. C'est pas 5 mètres de haut, c'est une grande gerbe. En quoi le signe n'est pas amené à disparaître ? Donc ça c'est la question, bon, bien sûr, je sais qu'on pense tous à la réponse. Ça c'est la question pour Rabba. Et on a une question également pour Rabba. Qu'est-ce qu'a dit Rabba ? Quand Rabba, qu'est-ce qu'il a dit ? Rabba a dit que notre Mishnah ici, Krichot, parlait d'un cas où il y avait un siman ou il n'y a pas de siman ?
Il n'y a pas de siman.
D'accord ? On verra dans la Khazara. Rabba a dit, siman, il n'y a pas de siman. Alors, moi je vous pose une question. S'il n'y a pas de siman, qu'est-ce qui fait la différence entre Krichot et Aloumat ? Pourquoi dans un cas je vais proclamer, dans l'autre cas je vais proclamer ? Qu'est-ce qui fait, en d'autres termes, la question qu'on va avoir ici, que la Gemara pose ici, c'est qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé entre le fait que c'était des grandes gerbes et des petites gerbes pour que tu vois que la halakha change tout. La question se pose et pour Rabba et pour Rabba. Parce que Rabba et Rabba ont réussi chacun à trouver un équilibre. Rabba a trouvé un équilibre avec en disant qu'il y a un siman, et que la différence qu'il y a entre Reshut Arabim et Reshut Hayachid, c'est que dans Reshut Arabim, c'est un siman qui est amené à disparaître, dans Reshut Hayachid, d'accord, dans Reshut Hayachid, c'est un siman qui n'est pas amené à disparaître. Et Rava a expliqué qu'il n'y a pas de siman et que la différence entre les deux cas, c'est que dans un cas, le makom peut être un siman, dans l'autre cas, le makom ne peut pas être un siman. A priori, dans le cas des Aloumot, on ne comprend pas qu'est-ce qui a changé. En quoi le fait que les gerbes sont grandes, ça a changé la donne, et du coup, Reshut Arabim et Reshut Hayachid, dans les deux cas, tu dois proclamer. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, qu'est-ce qui répond la Gemara ? La Gemara dit, Rava metaret letame, besiman, ve Rava metaret letame, be makom. Rava et Rava vont répondre chacun à cette question-là, mais chacun va répondre à sa manière. Rabba metaret letame besiman. Rabba va répondre à sa manière besiman. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit Rabba ? Rabba, il avait dit que on parle qu'il y a un siman. Donc ici aussi, il y a un siman. Il va te répondre, il va te dire comme ça. Krichot birchut arbe mare louchelo. Pourquoi des gerbes, des petites gerbes, ils sont dans le domaine public qui lui appartiennent ? Rappelez-vous, Krichot birchut arbe, ils lui appartiennent. Pourquoi ils lui appartiennent, dit Rabba ? Rabba, qu'est-ce qu'il avait dit ?
Parce que les signes qu'ils ont n'ont pas de signes. C'est pas des signes.
J'ai mis la flèche ici. Rabba. Cette flèche-là est pour Rabba. D'accord ? Voilà. Pourquoi Rabba a dit que dans Reshut Arabim, ça lui appartient ? Qu'est-ce qu'avait dit Rabba ? D'accord ? Vous me suivez ?
Oui.
Parce que c'est un signe qui aime t'aimer disparaître. Là, on a la réponse que M. Bismuth a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit M. Bismuth ? Il a dit, quand c'est des petites gerbes, dans ce cas-là, là, effectivement, le signe est amené à disparaître. Mais alors que Birshut Ayachil Otelou Machiz, le Midabta, Ve'alumot birshut arabim, d'accord, ben birshut arabim, ben birshut ayachid, otelo machiz, de kevan de gvian, le midarsa. Qu'est-ce qu'il va répondre, Rabba ? D'accord ? Rabba. Rabba, il va te répondre, il va te dire, comment vérifier, on parle toujours ici qu'il y a un siman. D'accord ? Ah, mais s'il y a un siman, pourquoi tu dis pas que le siman est amené à disparaître, comme tu me dis ici ? Rabba va te répondre, il va te dire, parce que moi je pense que comme c'est des alumot, comme c'est des gerbes, et que c'est des gerbes qui sont grandes, alors, les gerbes qui sont grandes ne vont pas être piétinées par tout le monde. Donc puisqu'ils ne sont pas piétinés, donc on n'a plus le facteur que tu m'as dit ici, un signe qui est amené à être piétiné, puisque c'est les grandes gerbes. Ça c'est la réponse pour Rabba. Donc qu'est-ce qu'il répond Rabba ? Rabba il dit que dans le cas où c'est des grandes gerbes, on n'a plus le facteur de siman à celui d'Arès. C'est plus un signe qui est amené à disparaître. Donc puisque c'est plus un signe qui est amené à disparaître, donc la seule raison pour laquelle avant dans Reshut Arabim je disais que Arel ou Shelo ils sont à toi, c'est parce que le signe est amené à disparaître. Mais là dans les grandes gerbes, que le signe n'est pas amené à disparaître, Reshut Arabim et Reshut Hayachid, il faut prendre et proclamer.
D'accord, mais quand tu dis des grandes gerbes,
oui,
tu peux comprendre la dimension de l'objet, mais tu peux comprendre aussi la valeur de l'objet.
Non, c'est la dimension. D'ailleurs, la Gemara le dit clairement. La Gemara dit
que ça peut être un diamant petit comme ça qui.
J'aurais pu penser comme ça, la Gemara te dit que c'est pas ça. Kevan de Gvian, l'omidarsa. Puisqu'ils sont hautes, comme c'est dit monsieur tout à l'heure, on piétine pas sur un. Donc c'est pour ça qu'on piétine pas. Verava metaret vetame. Et Rava va répondre aussi à sa manière. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Bemakom. Il va dire que Krichot, Birshut Arabim, Arel ou Shelo, il va te dire que Rappelez-vous, qu'est-ce que veut dire Rabat? Rava, pardon. Rava avait dit que dans le cas de Klichot, ici on parle, il n'y a pas de Siman. Qu'est-ce qui a fait la différence entre rue Paul Enfer et Avenue des Champs-Élysées? Que dans Avenue des Champs-Élysées, c'est à toi et dans rue Paul Enfer vous proclamez. Qu'est-ce qui avait expliqué Rava? Le seul facteur qui a changé entre domaine public et domaine privé, c'est l'endroit. Que dans la rue des Champs-Élysées, l'objet il bouge.
Et le Siman disparaît.
Et le Siman disparaît. Non,
non,
le bouge. Donc il n'y a plus de Siman sur le matos.
Non, alors,
oh là là,
d'accord.
On part de Rava.
On peut faire les deux
et
ensemble.
Dans les... Non. Non.
Alors, il a bougé, non, le Siman.
Alors que dans le domaine... Alors que dans la rue Paul Enfer, l'objet certainement ne bougera pas. Et là aussi, Rava va répondre. Il va te dire, moi, avec ce facteur-là, je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre Krichot et Aloumot. Entre des grandes gerbes et des petites gerbes. C'est que les petites gerbes, comme elles sont petites, Arel ou Shelo, des Mishtanfa. Comme c'est des petites gerbes, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la rue, on peut donner des coups de pied, ça peut partir, ça peut avancer, ça peut faire des mètres avant qu'on le retrouve. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est comme si je vous dirais aujourd'hui, vous trouvez quelque chose dans la rue. Dans la rue, ici, sur le boulevard Masséna. Statistiquement, quand vous avez trouvé l'objet par terre, certainement que c'est pas ici qu'il a été perdu. Certainement qu'avec les voitures qui sont passées, etc., certainement que l'objet, il a déjà fait plusieurs mètres. D'accord? Alors que si les gerbes sont grandes, là, on a plus de facteurs. Pourquoi on a plus de facteurs? Parce que l'objet ne déplace pas. L'objet ne se déplace pas. Vous me suivez? L'objet ne se déplace pas, parce que l'objet est lourd. Il se déplace pas. D'accord. Eh bien, d'accord.
Bon, on va dire que l'exemple, c'est pas un très bon exemple, parce qu'entre des petites gerbes et des grandes gerbes, je peux t'assurer que c'est pas aussi flagrant que ça.
Alors, quand on parle des grandes gerbes, ça veut dire qu'ils sont assez grandes, sont assez imposantes, de manière...
assez nombreuses. Voilà, on va partir sur un principe que l'autre, c'était trois petites gerbes, et là, c'était une grande gerbe comme ça.
Qu'est-ce qu'on te dit? Rabat aussi va se défendre. Rabat aussi va se défendre. Qu'est-ce qu'il va te dire? Rabat, pardon. Messieurs, Rava va se défendre, il va dire, moi j'ai aussi ma réponse pour ça, ma réponse qui est toute prête. C'est quoi ma réponse qui est toute prête? C'est que, bien que moi je te dis qu'il n'y a pas de Siman, et que la seule différence entre le domaine public et le domaine privé, selon Rava, c'est quoi? C'était l'endroit, que dans le domaine public, l'endroit n'est plus un facteur, alors que dans le domaine privé, rue Paul Enfer, l'endroit reste un facteur. Dans le cas de Aloumot, dans le cas des grandes gerbes, même dans le domaine public, l'endroit reste un facteur. Pourquoi? Parce que comme c'est des grandes gerbes, et c'est des grandes gerbes, donc certainement qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas déplacés, même dans l'avenue des Champs-Élysées. C'est comme si vous avez un objet très lourd. Quelqu'un, il laisse une valise à l'avenue des Champs-Élysées. Elle ne bougera pas. D'accord? Elle va exploser. Oui, mais...
Ça ne tient pas une heure. Nous avons trouvé une valise verte, elle va être détruite d'ici les 10 minutes, si personne...
Mais elle ne bougera pas par les passagers, ça c'est sûr. Donc avec ça, Rabat a expliqué à sa manière, avec le Macom. Il expliquait qu'est-ce qui a changé entre Aloumot et Klichot, c'est que ici, comme l'objet était léger, comme l'objet était cale, en hébreu, cale, donc c'est pour ça que il y avait la différence entre force affluence, faible affluence, mais ici, comme c'est cavet, comme l'objet est lourd, d'accord, donc c'est pour ça que il n'y a pas de différence entre le domaine public et le domaine privé, dans les deux cas, l'endroit reste un facteur, et c'est pour ça que dans les deux cas, il faut proclamer.
Pourquoi?
Voilà, maintenant, monsieur Khazara, vous avez du boulot.
Dans le cas des dates.
Oui.
On considère qu'un
bouton, oui.
Les dates elles partent, etc., donc seulement tu peux les prendre.
Oui.
Pourquoi dans le coup de la gerbe, même si c'est un domaine, entre guillemets, privé.
Qui a changé dans le cas de la date.
Ce
qui a changé dans le cas de la date, c'est que la date tombe de mon arbre sans que c'est pas moi qui l'a fait tomber. Elle est tombée de mon arbre d'elle-même. Donc on est obligé de savoir est-ce qu'on a le principe des décotes ou pas. C'est le seul cas qui peut s'appliquer parce qu'elle n'est pas tombée de ma poche.
Mais le vent c'est une décote, le vent.
Oui, tu as raison. Dans le cas des dates, le seul facteur qu'on pouvait amener c'était la décote.
Ou des filles ou n'importe quel autre truc.
Puisque c'est tombé naturellement. Alors que dans notre cas, puisque c'est pas tombé naturellement, on a de nouveaux facteurs qui sont un signe qui est amené à disparaître, un endroit, etc.
Une camionnette qui est passée, qui a fait tomber.